Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici ensemble à nouveau pour la suite du roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu. Au hasard de ces camps, trempé par la pluie percée de douleur jusqu'à l'os, Palestine Northwood était le témoin impuissant de la mutation de son ennemi le plus intime, de l'abandon de sa barbarie, de la défaillance de son instinct de survie. 100 fois, il avait tenu le grand bandit Crowley au bout de sa mire, 100 fois, il avait failli lui expédier le vol noir d'une balle entre les yeux. Lorsqu'il s'apprêtait à tirer, une voix s'élevait derrière l'épaule du bossu. Elle lui commandait de sursoir à son geste, de chercher à comprendre avant d'effacer une vie à jamais. De chercher à comprendre si un homme qui perd l'instinct de violence ne gagne pas au même moment la grâce d'une valeur inestimable. Palestine haussait les épaules. Il n'avait jamais vécu que dans la familiarité des blessures incurables. Pour lui, l'homme cible était déjà parti de l'autre monde. Alors la voix derrière Palestine se taisait. Elle laissait l'estropié écouter la musique de l'eau. Azeline apparaissait au bout de la manche. La jeunette apportait son rire, sa grâce. Elle éveillait l'aurore, elle chantait, elle jouait. Le justicier, le vilain Boscoyo, haussait à nouveau les épaules. Il avait un geste d'humeur. « Tais-toi, ma voix ! Seule la fournaise éprouve la trempe de l'acier !» Au même moment, vaincu par une exaltante délivrance, il ressentait la relativité de ce qu'il venait d'énoncer. Toute notre intelligence et la structure du monde qui fait sa boule chaque printemps conspire à sanctifier le contraire de la destruction et de l'oubli. N'est-ce point une bonne raison pour se rendre et espérer ? À quelques pas seulement de Palestine Northwood, l'homme et la femme dont il pilotait le destin faisaient l'amour à demi nu. Le chant mélodieux des oiseaux était dans les rameaux. Allongé sur la berge, tout contre le murmure du bayou, le mal foutu guettait le moment où le torse noueux de farouche ferraille Crowley se fondrait avec la blancheur étrange, silencieuse, ralentie du corps de sa compagne. Par 20 degrés de latitude nord et 157 degrés de longitude ouest, l'esprit exalté du navigateur se transportait alors en un pays lointain. Fantôme de bois mort, encalminé par la touffeur des îles Sandwich, la proue du Holy Hope déchirait lentement le tulle de brume de la rade. Tandis qu'entre Misaine et Grand-Mât, les huniers malmenés par les aboiements du maître Kérampon déployaient en vain le tyran des voiles afin d'essayer d'apprivoiser ce souffle de brise seul capable de rendre aux trois mâts carrés ses allures d'oiseau blanc, le matelot Palestine reposait au fond d'une case, le corps huilé, les muscles lisses, à demi étendu sur une natte, l'âme dispose. Il lavait et relavait au fil d'une aiguillère les psaumes de ses mains qu'il voulait rafraîchir. Il attendait l'amour. Fille d'un roi, la belle Nouka Iva baisait les paupières et lui offrait l'accueil de ses flancs si fertiles, mon Dieu. En ce temps-là, comme il était aisé de passer imperceptiblement derrière le rideau de la nuit, comme la vérité était légère et chantante, comme elle était facile à approcher, la pureté des indigènes au sortir du babil de leurs bouches enfantines, et comme, malgré le poids de toutes ces années nauséabondes, il était encore palpable, épicé, à peine atténué au fond de la gorge, le plaisir simple de fumer une pipe partagée avec les autres hommes de l'archipel, en regardant s'éteindre le ciel sanglant de l'océan. Rappel lointain d'une vie antérieure. Le rire d'Azeline cascadait sous les ombrages, se terminait par des mots si ténus que le souvenir s'éloignait. Palestine cessait de marcher vers la cendre de la lune. Le regard du marin tombait sur le mystère d'un bois tordu et poussé tout en nœuds. Il se frappait la tempe avec le poing, il se détestait à jamais. Le déroulement de ce qui est perdu, et tout ce qui se voit n'est-il pas ainsi fait qu'il trouble celui qui l'a appris? Une lassitude inattendue paralysait le doigt du tueur sur la détente de son arme. Sincèrement, son crâne vide lui commandait de s'extirper de la situation. Palestine Northwood baissait la tête. Soudain, il suspendait son geste de mort. Il muselait son revolver dans sa gaine. Revenu à la solitude de son camp, environné des ténèbres et du cri des oiseaux nocturnes, il s'en voulait. La grâce. Il soupesait sa cartouchière. Qu'y a-t-il de plus lourd que le plomb ? Il jetait rageusement une branche sur le feu. Il repensait à la jeune fille, vieux fou. Ne donne jamais à l'eau un passage, Northwood. Nouka Iva était morte. Azeline creusait sa source devant elle. En d'autres occasions, il aurait suffi d'apparaître à la saignée d'un chemin et de braquer sur Crowley son arme pour le réduire en esclavage. Toucher la prime et le ramener en travers d'une mule, point lié jusqu'en ville où la justice des hommes l'aurait pendu haut et court. Pourtant passaient les jours. L'homme de la baleine ne commettait rien d'irrémédiable. Le visage sec comme du bois, la peau collée sur ses os le soir à son bivouac, le harponneur de Dantukek, irrité sans mesure, poursuivait le cours de son obsession. Devant l'écran de ses paupières closes, la rage de l'océan brisait son ressac devant lui. Il serrait ses poings froids sous son manteau de marine. Le voici qui se disait avec désespoir, « Où donc est l'accomplissement de ma quête si rien ne me résiste, Dieu ? Comment accéder à cet endroit lointain et mystérieux où complote et m'attend la force de mon ennemi si le chemin s'arrête ? Dieu qui juge et Dieu qui oublie, tire-moi du filet d'impuissance qu'on a tendu devant mes pas. Si plus personne ne fuit à l'approche de mon galop, adieu le froid de mes os. J'ai perdu ma couronne, que va-t-il advenir de moi si je ne chemine plus courbé et sans force, les yeux défaillants de doute et l'esprit affamé du danger de la mort ? Ou alors, rends-moi mon cœur. Rends-moi mon cœur pur. Efface de mon esprit toute idée de revanche et de meurtre. Restaure en mon corps brisé l'ordonnance de ma jeunesse. Brise cette bosse. Et qu'ils dansent à leur tour les os que tu broyais. Tandis qu'il adressait ses prières vers le ciel, il se jetait à genoux, misérable. Il se traînait sur le sol. Une nuit, alors que son sommeil ressemblait à une agonie, Palestine s'adressait sur sa couche. Dans la tiédeur de la couverture, il a palpé sa racine alourdie d'un mauvais sang qui épaississait dans ses veines. Les tempes battantes, éreintées par la malchance de ses cauchemars, il s'est élevé d'un seul élan. Ses gestes étaient vifs, il ne lui appartenait plus. De son sac de marin qui lui servait, ordinairement d'orier, il a sorti un pantalon rouge gancé sur le profil. Un habit d'apparat que lui avait légué Captain Jonathan Fix sur son lit de mort. Une culotte qu'il n'avait jamais mise. Un drap d'uniforme qu'il ne comptait pas enfiler sur ses longues jambes avant le jour de son propre enterrement. L'étoffe était froissée. Le capitaine Fix avait été un homme de courte taille. Mais l'habit rouge valait largement assez pour ce que Palestine comptait entreprendre. Et même en admettant que ses chausses frisassent le ridicule en pavillonnant la bise à mi-mollet, la recherche d'élégance dont elles témoignaient leur rareté sous de telles latitudes et un peu de savon que Palestine comptait utiliser pour se frictionner sous les bras ferait mieux passer l'odeur de transpiration du sous-vêtement douteux dont ne se séparait jamais le marin. À tâtons, le grand bossu des banquises avait rasé ses joues et époussié sa casquette d'inscrit maritime. Son esprit le transportait à nouveau sur une natte, dans la touffeur du climat des îles Sandwich. Il avait sanglé sa sourtadère sur son coursier. Une main grabée sur le plomo, il s'était hissé sur sa selle. Il avait laissé le feu et les cendres mourir au milieu du marais. Sans se retourner, il avait chevauché jusqu'à la ville. Bon. À l'autour de l'église de Bayoun et Piquet, tout dormait dans les rues. Passé le salon, chez Archille, le cavalier unique avait tourné dans un étroit passage. Hors du chemin public, il s'était arrêté en face d'une petite habitation cachée derrière les clayons. Une boîte blanche allongée comme un plumier sous la lune et coquette avec ça, frisée de rideaux roses. « Salut !» En frappant au carreau, où il savait qu'habitaient deux femmes de mauvaise vie, une Catin, Ray, et l'autre Louison, Palestine Northwood, comme une personne atteinte d'oubliance de l'heure tardive, a fait un sourire affamé aux deux visages dessinés derrière la fenêtre. « On est fermé !»«
Oui. »«
Mais peut-on pas ouvrir qui s'est barré ?»« Trop tard. L'ouvrage est lâché, » a dit Ray. « Moon, today, j'ai fini avec réfraisir les brandons des bons hommes. »« Et Moon ?» a soupiré Louison. « Je peux pas ouvrir la porte sans la clé. Même si j'ai pas sommeil, la clé est dans la poche à Ray. » Palestine a montré son argent. Une bouteille de gin. Il a fait de grands gestes. Les deux pas bonnes se sont à regarder. « Tous les bétails font le même bruit, » a dit Louison, qui était bonne fille au cœur lâche. « Ce soir, on peut bien encore casser un œuf de plus. » Deux secondes après, par exception, les dorses étaient après, s'ouvrèrent doucement.
Si t'as des hanches, t'as ta robe, le monde appelle un sang. T'as ta robe, mais t'as ta robe, le monde appelle un sang. Sommier, sommier, sommier dans les bras de ton gars. Thank you.
balancer, balancer dans les bras de ton gars.
Si t'as des hanches, si t'as des hanches, taille ta robe, la molle à balançant.
Sommeiller dans les bras de ton gars.
Au balancer, au balancer,
balancer dans les bras de ton gars.
Taille ta robe, taille ta robe, taille ta robe, la molle à parasol.
Au balancer, au sommeiller,
sommeiller dans les bras de ton gars.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Retour au roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu. Quand le marin de Nantucket a quitté la chambre, la lampe éclairait du sang sur le mur. Il a laissé échapper sur le parquet un instrument servant à inciser, l'acier d'une paire de ciseaux, peut-être. C'est pas comme ça qu'il faut s'y reprendre pour raccommoder la misère. Palestine Northwood nageait dans les pantalons rouges du capitaine Fix. Il est reparti au fond de la forêt. Chemin faisant, il n'a pas seulement regardé ses mains. Et puis, seul, pendant des jours sans nombre, était-ce parce qu'il s'était placé en dehors de toute loi humaine, il resta planté sur son cheval. Il ne prenait plus de nourriture, il oubliait le goût des sources. Amoindri et perclus dans ses os, il se sentait sans le moindre germe de vie. Quand il vit s'avancer au-devant de lui un chien proche de sa propre misère, il écarta imperceptiblement les écailles de ses lèvres gercées avec le tranchant de ses dents. Il murmura pour lui-même « Quelqu'un !» Il descendit trois fois de cheval. Il ouvrit les pans de son manteau à cette parcelle de vie. Il n'eut de cesse que l'animal lui eût léché les mains et le cœur réchauffé. Et c'est comme ça, ce fameux jour, que Mamselle Grandois avait pu s'illusionner que le pont sur le bayou était devenu un crocodile. Pour nous, c'était possible. Au matin de ses noces, comme il l'a été déjà dit, il était 8 heures à peine, Azéline avait le teint frais et la taille bien prise. Allingée dans sa robe blanche, elle était méchant jolie. À pas compter, elle est allée faire confesse. Contrairement aux usages, un prêtre d'une autre paroisse avait pris la place du chapelain de Bayou-Népiquet. Il a reçu la pénitente à l'abri des oreilles. Les murailles étaient beaucoup minces en ces temps-là. Ça se fait vers 9 heures. Azeline s'est agenouillée sur la paille de la grange aux côtés d'un très vieux homme qu'elle connaissait pas. Les bras entrouverts pour capter la miséricorde du Tout-Puissant, elle l'avait trouvé enfermé avec les bêtes comme dans une crèche. Il était après prié avec beaucoup de piété. Pas trop loin de la mangeoire à Tinoir, la fille de Popraquin a commencé à s'accuser avec une grande sincérité. Ainsi qu'il est naturel, dès qu'on aborde ces tentatives d'épouillage de l'âme, l'énoncé des fautes qu'elle avait commises allait en grossissant. Après l'aveu bien anodin du péché de gourmandise, elle a admis à voix basse qu'elle avait parfois erré hors du chemin de la vérité. Elle a parlé de son égoïsme et reconnu son effronterie, souvent fois déployée à défier le regard des jeunes hommes. Pardon, mon père, ça va toujours pareil. Dès que je vois un de ces coqs qui restent à l'oif tout le temps, dans leurs belles bretelles, joue à fouiller ses yeux. Et c'est pas bien, honnête, je sais. J'allume un grand feu dans sa cervelle. » Après le silence d'une lutte intense, elle a promis de ne point cacher les secrets de son corps corruptible. Elle a dit qu'elle souhaitait en régler avec Dieu le poids, le nombre et la mesure. Puis le moment venu, elle a hésité à s'accuser bien franchement du péché de sexe. Elle s'est arrêtée de parler. Elle était mouve. Quand on joue ça, on pleure tout le temps. En l'entendant sangloter, le vieux prêtre s'a bien gardé d'intervenir. À force d'accorder sa consolation, il savait d'expérience qu'un souffle peut ôter l'envie de confier sa vie. Une terreur soudaine et partagée s'est emparée du confesseur et de sa repentante. Devant l'inconnu du voyage qui les attendait, ils étaient guère plus rassurés que deux petits êtres blottis ensemble dans une nuit où le passage des hyènes et le sifflement des reptiles leur étaient réservés. Ailleurs, pour les justes, le monde entier brillait d'une lumière étincelante. Le vieux prêtre a dit « Ma fille, c'est vous qui portez la charge de nous, vous seule !» avait le pouvoir de rallumer la clarté. La petite a mordu ses lèvres. Elle est entrée en soi-même. Depuis quelques mois, j'avais fait un pacte avec mes yeux de ne plus regarder aucun prétendu, a-t-elle fini par murmurer. Mais si là que je vous demande de marier aujourd'hui ce bel homme, avec des yeux gris comme un passé de nuages, dès que je l'ai vu, j'ai voulu graver son corps sur les paumes de mes mains. » Elle disait cela avec les joues empourprées. Les yeux fouillants, elle s'était détournée vivement vers le prêcheur. Elle a ajouté avec une grande fièvre, « Ah, père, père, même si je vous parais folle, verte et naïve, pardonnez, je l'ai aimé en un jour, et le lendemain, c'était pire. » Dans son élan du moment, elle tenait serré le poignet du curé dans sa griffe, elle l'escouait presque son bras. Avec sa chevelure pendante, ses rides de mansuétude autour du front, le curé Toby Lefort la laissait faire. « Dites-moi si vous avez glissé, ma fille, » dit-il simplement. « Aussi combien de fois le serpent a mordu, et à quelle hauteur, s'il vous plaît ?» Azéline égrenait à nouveau son rosaire sans déblater. Les mots nouaient dans sa gorge. Ils étaient maillères trop étouffants pour pouvoir passer son bec doux. En percevant son combat pour la vérité, le chapelain a souri. « All right, tout va bien », il a murmuré pour encourager sa confessionneuse. « J'ai eu la malchance plusieurs fois », Azeline a dit d'une voix tremblante. Il faut répéter, l'abbé Toby Lefort était un homme de Dieu qui savait prendre les silences des jeunes gens pour des aveux. « Go ahead, mon enfant, comptez vos pas jusqu'à moi, vous blanchirez votre faute. » « Le serpent a consumé ma chair et ma peau, » dit Azeline, « ce sont des mains d'hommes qui m'ont façonné. » Même si c'était des temps durs, elle se sentait comme une âme qui paye son compte au Seigneur en disant cela. Le prêcheur l'a relevé après contrition. Il lui a dit qu'elle était lavée comme un linge de sacristie. Il lui a recommandé de demander la grâce et le bonheur. Après Azeline, son fiancé. Les choses se firent honnêtement. Elles étaient dans l'ordre. Le grand ferraille était à deux genoux sur le sol nu. Quand le serviteur du bon Dieu lui a commandé d'étaler ses péchés, il s'est tendu comme un arc. Il n'oubliait pas le nom ni les derniers yeux de ceux qu'il avait tués. « Mon Dieu, dit-il en s'abîmant dans la prière, faut-il aller si haut pour être heureux ?» Le grand bandit Crowley laissa son esprit obsédé divaguer. Il s'accusa de tous les tirages qu'il avait commis et ne cacha pas que son tourment était devant lui sans relâche. Après qu'il eut affranchi Ferraille de tout le sang versé, le prêtre est ressorti de la grange. Sa bouche était collée. Il est allé prier sous un arbre. Derrière son dos courbé, par la misère du monde, toute la maisonnée faisait ruche. Les habitantes d'autour du bayou, Mlle Grandois, sa petite sœur, Jasoline Bi, une autre ménagère, son nom était Luquette, elle allait l'ouvrage mieux qu'un bonhomme, et cette dinde de femme à Armogène fusilier, Joséphine, elle comptait toujours pour du beurre, était venue prêter la main à Basel. La cuisinerie regorgeait d'odeurs. Parfois, Edius passait la tête ou cherchait à espionner par une craque du mur en bousillage. Il lorgnait le festin en train de se mijoter dans les casseroles. Dès que son œil inquisiteur apparaissait par la fente, le ramtcha, la parlangue, la jaserie des commères s'arrêtaient. Basel, les mains occupées à pétrir, mirait par-dessus son épaule. « Qu'est-ce que tu cherches ici, vieux cheval ? Je veux personne alentour dans mes jambes. »« Ben, mais je suis venu quérir quelques soutiens de nourriture pour aller avec mon café doux. »« T'as sûr besoin de rien, vieux hypocrite. Même un os acheté, tu n'auras point. »« Oh, mais tout ce qui me manque pour finir mon bol, ça serait une petite pièce de boudin et deux ou trois bons gratons du pain du maïs. » Elle fondait sur lui avec sa cuillère ou son rouleau levé pour le taper. Elle l'aurait enfariné, si ça se trouve, un nuage de poudre blanche dans les yeux. « Allez, va-t'en, va te cacher !» Le vilain bougre battait en retraite, il riait sous cap. Il allait quand même pas s'arronder avec sa vieille un jour de famille. Infatigable, il parcourait si bien l'habitation en tous sens pour veiller à la bonne ordonnance des personnes ou des objets, que depuis les galeries juste au-dessus des greniers, les parquets branlaient sous ses bottes. Dans son ardeur, tant de pas cloutés pour presque rien, il était folle. Sans cesse, il marchait deux fois sur la même place pour faire le même ouvrage. Au milieu de la matinée, les premiers invités commencèrent à monter le chemin. Ils s'annonçaient par des éclats de voix, des exagérations, des plaisanteries. « Yeah, yeah !» Ils poussaillaient des cris pour encourager l'attelage, comme si grimper la pente du jardin, c'était les monts Appalaches. Pour mieux nous comprendre, il convient de savoir qu'un Cadjin qui vient marier sa fille d'un voisin s'avance vers l'habitation de ce dernier avec un esprit de gaieté, des idées riantes, une franche bonne humeur et un vrai plaisir de boire et de manger. Les couples arrivaient pour la plupart dans des wagines pas trop lourdes. Les plus gros chiens, fiers de leur argent, montaient des épouses harnachées dans des toilettes coutangeuses. Ils voyageaient dans un hackney carriage, une voiture de louage en autre mot. Mais à part ça, deux ou trois, m'as-tu vu de ce bord-là, chacun avait fait signe bien volontiers. Les gens s'étaient juste fiers et contents de se voir en une bonne occasion et de faire une belle noce d'une belle paire. C'est dire qu'excepte qu'ils s'étaient trempés le tchu dans un baquet d'eau savonneuse, ils étaient restés tels qu'en eux-mêmes. Le hangar était déjà rempli avec trois boguets et une couple de borouches. Ça faisait des hacks où les wagons qu'arrivaient plus tardivement dételaient dans la cour. Tout le monde se connaissait. Tout le monde était ami. Même si les habitations étaient lointaines, souvent les filles avaient partagé l'enfance, mâché des doudous, des cailloux de sucre en attendant que les grandes personnes aient fini de danser le reel ou le one step jusqu'au petit jour. Edius venait faire l'accueil. Les hommes célibataires sautaient de leur choual et dépoussiéraient en buvant un verre de moonshine ou alcool de maison. Pendant cette occupation pour étancher la soif, il promettait qu'il ne serait ni saoul ni audacieux avant la fin du jour. C'était une sacrée belle fête en préparation. Voilà, nous avons terminé pour ce soir. Donc, cet extrait du roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.